des rideaux, il n'y a plus rien. C'est pour ça que le son il est sourd de même, parce qu'il faut faire traiter les rideaux contre le feu. Fait que nos rideaux sont à Montréal, sont en vacances. Fait qu'on va les revoir la semaine prochaine. Fait que la semaine prochaine, on va retomber dans le correct, là, mais là, on n'avait pas le choix de faire ça. Fait que ce matin, je vous emmène l'intro. Je vous emmène dans 1 Samuel. Hey, Ben, t'es-tu capable, là? Ouais. J'ai oublié d'allumer ça. Yes, sir! Hey, ça, c'est parfait, ça. OK. Fait que je vais prier pour l'intro. Fait que, Père, je te remercie pour ce temps-là, Père, que tu me laisses pour venir renseigner aux gens ce que tu m'as montré cette semaine, Père. Fait que je vais te prier pour que ça puisse être béni, que chaque personne puisse recevoir ça, Père, puis que ta parole puisse faire effet dans chacune de nos vies. Amen. Fait que aujourd'hui, je vous emmène quelque chose de vraiment hot, en tout cas, parce que ça me fait vraiment plaisir d'être en avant ce matin. Je vous emmène le son va être meilleur dans lui. Puis ton verre est allumé. C'est bon? C'est parfait? Feu. OK. Ce matin, je vais vous apporter. Qui a déjà lu? Ben, qui a déjà lu dans 1 Samuel? Qui a déjà regardé le cheminement de Saül? En tout cas, moi, je sais que personnellement, depuis, là, mettons que, tu sais, c'est pas la première fois que j'ai lu 1 Samuel, mais il y a toujours un détail qui m'accrochait, puis que, écrément, c'est venu, c'est correct? Il y a toujours un détail qui m'accrochait parce que si j'avais toujours une affaire qui venait constamment à ma pensée, puis que je comprenais pas, puis cette semaine, j'ai prié pour ça parce que, je dis, Seigneur, montre-moi ce qui m'accroche, mettons, quand je lis ça. Parce que moi, la chose qui m'accroche, là, quand je lis 1 Samuel, j'avais de la misère à saisir puis à comprendre toute la méchanceté que Saül y avait envers David. Les choses, Saül, il était jaloux de David. Je ne sais pas si vous vous souvenez, David a tué ses 10 000, puis Saül a tué ses 1 000, puis Saül s'est rendu compte que le peuple aimait beaucoup David. Puis c'est comme ça, il n'était pas confortable de voir comment est-ce que les gens l'aimaient autant David que lui, tu sais, parce que genre il l'acclamait quasiment plus haut que lui. Puis mon questionnement, je me disais, je comprends pas pourquoi, Seigneur, que tu permets que Saül soit aussi méchant que ça par rapport à David. Parce que quand on lit 1 Samuel, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous ne l'avez jamais lu, David, il voulait juste du bien pour Saül. Il n'a jamais voulu son mal. Il voulait toujours son bien. Il était toujours là pour lui. Puis quand il parle, il dit « Mon roi, mon seigneur », T'sais, il savait que c'était l'homme que Dieu avait mis en place. Puis, il s'est toujours battu pour lui. Puis, du jour au lendemain, Saül a commencé à détester puis à haïr David. Puis, il voulait même sa mort. Puis, je regarde tout ce qui se passe, mettons, dans 1 Samuel. Je me dis, pourquoi, Seigneur, que tu permets que Saül soit aussi méchant que ça envers David, puis toutes les choses méchantes qu'il a faites pour pouvoir détruire David. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Puis, je vous amène dans 1 Samuel 26, versets 6 à 12, puis je vais vous le lire. Fait que dans le verset 6, je vais juste vous mettre dans le contexte, c'est que Saül revient encore avec une stratégie pour pouvoir tuer David. Puis ça dit que, si je me souviens bien, ça, je pense qu'il prend 600 hommes d'élite, puis il se dirige vers David pour pouvoir le faire mourir. Puis ça dit qu'il fait un campement pas trop loin de où est-ce que David est, parce qu'il a, À travers les branches, Saül est capable de savoir où est-ce que David y est rendu. Fait que quand il sait ces choses-là, ben ça dit qu'il se redirige vers David pour pouvoir la faire mourir. Fait que ça dit que pendant la nuit, quand David a su où est-ce que Saül y était par rapport aux espions qu'il avait envoyés, ça dit que David prit la parole dans le verset 6. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Éthien et à Abiscaï, fils de Térudja et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? » Et Abiscaï répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abiscaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner, c'est le commandant de l'armée de Saül. Fait que ça dit, Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abiscaï dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Mais David dit à Abiscaï, « Je ne le détruirai pas. » Point d'exclamation. Vous voyez le point d'exclamation? « Je ne le détruirai pas. Car pourrais-je impunément porter la main sur loin de l'Éternel? » Et David dit, « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. » Après ça, ça dit dans le verset 11, « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel, prends seulement la lance qui est à son chevet et la cruche d'eau, et allons-nous-en. » Voulais-tu que je lise jusqu'au verset 12? Oui, verset 12. Ça dit, « David prit donc la lance et sa cruche d'eau qui était à son chevet, au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. » Fait que la chose que je voulais vous parler par rapport à ça, c'est que est-ce que vous pensez que c'était facile pour David d'aller au milieu du campement de Saül? Puis non, c'était pas facile. Parce que, en tout cas, David, il avait quand même David, il devait avoir une foi ferme, puis il devait vraiment connaître bien son Dieu pour pouvoir s'en aller au milieu du campement. Puis, je ne sais pas si vous avez lu, mais dans ce que je vous ai lu, c'est que ça dit que David, il dormait au milieu du campement, puis tous les soldats dormaient autour de lui pour le protéger. Saül, ouais. En tout cas, je ne me souviens plus trop ce que j'ai dit, mais Saül dormait au milieu du campement, les soldats autour, puis David devait aller jusqu'au milieu pour pouvoir aller prendre ce qu'il voulait prendre. Puis, c'est ça. Il devait avoir quand même une foi que Dieu allait le protéger dans ce qu'il allait faire. Puis, je trouve ça beau de voir comment est-ce que David pouvait connaître son Dieu pour faire un pas comme qu'est-ce qu'il faisait. Parce que, tu sais, ça dit que l'Éternel y avait fait dormir tout le monde pour pas que les soldats prennent David puis Abiscaï, mais même là, c'est que ça y prenait quand même de la foi en tabarnouche. de s'en aller jusqu'au milieu du campement, prendre ça, puis revenir. Même si l'Éternel avait fait un miracle de tout faire dormir tout le monde. Puis, je veux vous emmener de. Je veux vous emmener le point, un point vraiment important là-dedans. Je vais vous emmener un point. Je vais vous emmener dans le verset 10 puis dans le verset 11. Ça dit que ils sont rendus au milieu du campement. Puis ça dit que Abiskaï dit à sa idée à David, il est couché avec nous autres, il dort. Ça dit laisse-moi juste prendre ma lance puis le régler une fois pour toutes, le faire mourir, puis on va arrêter de se sauver partout, puis d'avoir peur qu'il te fasse mourir. Puis... Fait que, dans le verset 10, je vous le lis, ça dit, « Et David dit, l'Éternel est vivant. » Puis, je sais pas si vous voyez, mais tantôt, j'ai mis l'emphase sur le point d'exclamation. Le point d'exclamation, là, c'est comme, c'est un ordre, là. C'est une affirmation, c'est quelque chose qui est important. Je sais pas si... Parce que moi, je sais que ma maison, où est-ce qu'elle est placée, je suis placé sur une route qui est quand même passante. Puis si je vois que un de mes enfants veut s'enligner pour traverser la rue, là, comment est-ce que vous pensez que je vais y dire? Ouais! C'est vraiment ça. Parce que ça montre le sérieux de la chose. Le point d'exclamation, ça dit, lui, il vient juste d'y dire, on le tue, on règle ça pour une fois pour toutes, on y reviendra pas deux fois, il est là, il est couché, on va le faire mourir. La chose qui est belle, c'est que ça dit, l'Éternel est vivant avec un point d'exclamation. Puis l'autre chose qui est belle là-dedans, ça dit, c'est à l'Éternel seul de le frapper. C'est hot, parce que qu'est-ce que David savait, c'est que cet homme-là, c'était Dieu qui l'avait placé là. Puis que jamais il lèverait la main sur un homme que Dieu avait mis en place. C'est attentat. Puis tantôt, je vais vous ramener d'autres choses qui, par rapport à ça. Mais tu sais, c'est pas un point d'exclamation. C'est pas un point d'interrogation qui est avec qui est à la place du point d'exclamation. Là, c'est pas comme il n'y a pas 10 000. Il n'y a pas 10 000 solutions ou questionnements, c'est un point d'exclamation qui est là. C'est, il l'affirme, puis il sait. Il dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. Il dit, moi, je ne lèverai jamais ma main sur lui. Puis dans le verset 11, ça dit, loin de moi, de porter la main sur loin de l'Éternel. Fait que je trouvais ça beau de voir David qui dit, je ne porterai jamais ma main, je ne lèverai jamais ma main, je ne le ferai jamais mourir de ma main. Si Dieu a de quoi à faire, il le fera, mais moi, je ne me ferai pas. Tu sais, ça, je trouve ça drôle parce qu'à plusieurs places, au moins à deux places dans le livre de Samuel, ça dit que David a eu la chance de le faire mourir, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu lui dire, lève la main, puis tu lui règles une fois pour toutes. C'est arrivé au moins deux fois. Puis David, il ne l'a pas fait. Il a dit, c'est l'Éternel qui va s'arranger avec. Il est vivant. Puis, savez-vous quoi? C'est que, est-ce que vous croyez que Dieu, il est moins actif, puis qu'il travaille moins aujourd'hui que qu'est-ce qu'il travaillait dans le temps? Est-ce que vous pensez que Dieu, il est moins présent ou qu'il est plus présent? Dieu, il est autant là aujourd'hui que qu'est-ce qu'il était dans le temps de David. Puis hier, j'écoutais des petits bonhommes avec les enfants, puis je regardais, mettons, des marins qui voguent sur l'eau, puis je me disais, Dieu, là, peu importe où ce que tu es, là, les marins, n'importe qui, quand tu demandes à Dieu de faire un miracle ou de s'occuper de toi ou d'une situation X, Dieu, il est aussi fort qu'au début. Dieu, il est capable de faire des miracles, il est capable de faire n'importe quoi. Fait que ça dit, laisse-le faire ce qu'il a à faire, parce que souvent, on oublie que Dieu, il est pas mal plus fort, puis il pense pas, puis il agit pas non plus comme nous autres, on agirait. Fait que ça dit, l'Éternel est vivant, il fera ce qu'il a à faire, mais moi, je ne lèverai jamais ma main sur un homme que Dieu a mis en place. Puis, dans le contexte d'après, là, moi, j'ai tendance à m'étaler un peu, là, mais en tout cas, je pourrais continuer au rap, c'est certainement. Mais il m'en reste pourquoi 5 minutes? Je le fais-tu? Je le fais. Je le fais, ma pensée est focusée là-dessus, puis après ça, je vais aller faire ma classe. Attends une minute. OK. Fait que dans le contexte de ça, c'est que là, David, il sort du campement, il s'en va sur la montagne qui est loin, puis il crie, puis il montre au peuple d'Israël qui est dirigé par Saül, qu'il a pris la lance, puis blablabla. Fait qu'il sait ça. Puis, je continue-tu au rap? Je me le demande. Verset 26. Verset 23 et 24. Dans mon questionnement concernant la méchanceté de Saül envers David, Dieu, il m'a montré quelque chose. C'est que... je le finirai. Ça va être trop long. Bon. Fait que je finis ça au rap, puis il faut tout que vous restiez à manger. Fait que je te laisse la place pour ça, Dieu.
C'est Gilles. 1, 2, 2. 1, 2. C'est Jeffrey, c'est ça? Jason? Jordan. Bienvenue, Jordan. Content de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour, ma chère sœur. C'est un petit bout qu'on s'est vu. J'espère que tu vas bien. Oui? Good. Super. OK. Merci à Gilles. Très intéressant de voir comment... Oups, je vais ouvrir mon ordi, ça va aller mieux. Comment mettre sa foi en Dieu, c'est pratique. J'espère qu'il me reste de la batterie. Oui, parce que... I did 1, 2. Good. Tu peux aller à la première acétate. Merci. Seigneur éternel, je te prie pour ce message. Seigneur Dieu, je te prie pour chacune des personnes qui vont entendre ce message, soit sur un enregistrement, soit ici, Seigneur, afin qu'on puisse réaliser, Seigneur Dieu, combien tu nous aimes, combien, Seigneur, tu es élevé dans les cieux, Seigneur, et que tu mérites d'être obéi, Seigneur. Tu mérites d'être servi, Seigneur Dieu. Tu nous as placés sur la terre, Seigneur Dieu, pour parce que tu es le roi des rois, Seigneur Dieu. Tu es le premier avant toute chose. Tu es digne qu'on te serve, qu'on t'obéisse. Mais tu es aussi un Père aimant, un Père qui aime chacune des personnes que tu as créées. Et je te prie, Seigneur, qu'avant la fin de ce message, on puisse comprendre ce grand amour pour nous et ta grande justice aussi, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. OK, donc, souvent dans les derniers temps, j'ai prêché des messages, puis on a dit de Dieu, prochaine acétate. Non, ça ne fonctionne pas. Attends, il faut que je l'allume. Je ne suis pas allumé. Que Dieu est souverain, qui est le créateur de toutes choses, qui est avant toutes choses, puis il a le droit d'être servi, ou il a le droit d'être obéi, puis il est un Père aimant, Et ce Créateur-là désire une relation avec les hommes et les femmes qu'il a créés. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On a voulu avoir notre propre autonomie. Hein? On a voulu être notre propre roi, puis diriger nos propres choix. Et donc, c'est l'essence même du péché dans le monde. C'est que le péché, en entrant dans le monde, il a amené un besoin avec lui, le péché. Le besoin d'être pardonné par ce souverain-là qui a le droit d'être servi. Et donc, on a besoin d'être pardonné puis de retrouver cette relation-là avec le Père. Et aussi, on a besoin d'être restauré dans notre service pour lui. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a été placé sur la terre pour lui, pour le servir. Et donc, on a besoin d'être pardonné puis on a besoin d'être restauré dans notre service pour lui. Donc, le Père dans les cieux désire rétablir une relation avec l'homme, puis il va agir comme on s'attendrait d'un roi juste, c'est-à-dire qu'il va agir en toute justice, et il va agir aussi en tant que, comme on s'attendrait d'un Père aimant, avec amour. Puis l'image que ça fait, c'est une croix. Et c'est la place, c'est la seule place dans le monde où on peut voir vraiment l'amour de Dieu puis la justice de Dieu se rencontrer, puis on va en parler aujourd'hui. Alors, vous êtes dans Jean 1, on va tourner là, si vous n'y êtes pas, puis on va aller lire quelques versets dans quelques instants. Alors, comment est-ce qu'il fait ça? À la croix, Dieu offre son propre Fils, et c'est ce Fils qui consent à donner sa vie sur la croix pour mettre le comble à son amour pour nous. Jésus disait à ses disciples dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et donc, Jésus dit, « Écoute, je ne peux pas vous montrer de meilleure manière que je vous aime, c'est que je vais mourir pour vous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Puis Jésus, dans Jean 10, 18, il dit, « Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, il y a 2000 ans, sur une croix de bois, Jésus-Christ n'était pas donné par son Père, simplement. Il n'était pas juste... On ne veut plus de ce gars-là, mais il y avait en même temps quelque chose qui se passait, c'est que Jésus-Christ mourait sur la croix et il disait, « Il n'y a personne qui m'enlève ma vie. Je ne suis pas en train de subir un procès injuste, là, puis que j'ai perdu le contrôle. Là. Je vous aime tellement que je viens payer la dette de vos péchés puis je meurs sur la croix pour vous. » Et donc, Jésus-Christ, il donne sa vie en sacrifice et c'est un acte de justice et c'est un acte d'amour. C'est un acte de justice parce que la punition que tu méritais est tombée sur lui. Et c'est un acte d'amour parce que c'est lui qui décide de mourir pour toi à ta place. Et donc, dans 1 Jean 2,2, ça nous dit, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jésus-Christ, il est une victime expiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire, une victime expiatoire? Ça veut dire que le péché mérite une punition, et que cette punition-là est déviée vers une personne ou un animal dans l'Ancien Testament, un agneau. L'agneau qui se faisait trancher la gorge, et Dieu acceptait que la punition que méritaient les péchés des hommes tombait sur lui. Bien, Jésus a dit, « Je suis l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Dans Jean 1, 29, en fait, c'est Jean qui dit, « Voici l'agneau qui enlève le péché du monde. » Et donc, si tu veux savoir comment Dieu déteste le péché, regarde à la croix. Dans sa justice, il punit le péché. Si tu veux savoir comment Dieu t'aime, regarde à la croix. C'est là que Jésus-Christ meurt pour toi. Et donc, à la fin de mon message, que je veux qu'on réalise, c'est deux choses. La première, c'est que la croix va être le point de contact entre le ciel et la terre pour une personne non-croyante comme pour une personne croyante. Si tu veux rencontrer Dieu, c'est à la croix que ça se passe. On va essayer de comprendre ça aujourd'hui encore mieux. Puis, que plus tu vieillis, puis plus tu as accumulé des fautes, plus, si tu vas à la croix, tu vas aimer Dieu. C'est comme l'inverse de ce que le monde dit, hey, si tu as vécu une vie sans péché. Puis si je ne suis pas en train de dire faux péché, je dis que plus que tu vas avoir été indigne, ou que, en tout cas, tu vas réaliser ton indignité, si tu vas à la croix, plus tu vas réaliser l'amour de Dieu pour ta vie. Et donc, Puis la Bible a dit, est-ce qu'on va pécher plus pour qu'on voit encore plus l'amour de Dieu? Non. Mais si tu es là, tu ne seras pas empêché de l'avoir, cet amour-là, si tu as péché beaucoup. OK. Donc, on va commencer avec une définition ce matin. La grâce, ça veut dire une faveur non payée de retour. C'est une faveur que Dieu fait, puis tu n'as rien à faire en échange. Avant, pendant ou après que Dieu te donne sa faveur. OK? Titre, il dit d'une manière, le titre aujourd'hui de mon message, c'est « La grâce manifestée », puis on va voir 7 faits fondamentaux sur la grâce. La grâce de Dieu manifestée. Titre, il va dire dans titre 2.11, il va dire « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Jean, que vous êtes probablement dans Jean, on va lire à partir du verset 14 à 18. On va voir comment Jean lui dit que la grâce a été manifestée. La parole s'est fait homme et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique venu du Père. OK? Regardez bien. Elle est pleine de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié en parlant de Jean-Baptiste. C'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean, il nous dit ici, que la grâce de Dieu a été manifestée quand Jésus-Christ a visité la terre. Hein? Premièrement, Dieu nous fait une faveur qu'on ne peut pas payer de retour. Il nous donne son Fils, né d'une vierge. On a fêté ça à Noël dernièrement. Dieu nous fait la faveur de nous envoyer son Fils. Ça, déjà, c'est une faveur. Deuxièmement, il dit que nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Puis le mot, le verbe qui est utilisé, c'est le même verbe quand on dit que c'est une vague sur une vague, sur une vague, sur une vague. Comme sur le bord d'un océan, les vagues ne cesseront pas de se frapper les unes sur les autres et frapper sur le rivage. Eh bien, la grâce de Dieu est comparée à, ou Jésus-Christ est comparé à une mer de la plénitude duquel on reçoit des vagues. Continuellement. Des vagues. On a reçu, les gens disent, on reçoit grâce sur grâce, grâce sur grâce. Pourquoi? On est toujours en train de recevoir quelque chose qu'on ne peut pas rendre à Dieu. Que ce sont des faveurs que Dieu nous envoie au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc, si Jésus-Christ est l'océan, son pardon et ses faveurs continuelles envers nous sont des grâces sur grâce, sur grâce, sur grâce. Ce sont des faveurs que Dieu ne nous demande pas de lui rembourser, ni de travailler pour avoir, mais de simplement recevoir. Simplement recevoir. Et donc, les faveurs ne cessent jamais quand on se tourne vers le Fils. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, les faveurs envers nous ne cesseront jamais. Et comme Moïse, on pouvait savoir un petit peu qu'est-ce que Dieu s'attendait en tant que roi, bien, Jésus, lui, il ne nous a pas juste parlé des commandements du roi, il nous a parlé du roi. Il est venu révéler celui que personne n'a jamais vu. Donc, quand tu passes par Jésus-Christ, tu vas avoir aussi la vérité par Jésus-Christ. Le message aujourd'hui est inspiré du livre Louis Perry Schaeffer, La grâce. Déjà, dans les premières pages de son livre, il parle des 7 faits importants de la grâce de Dieu et c'est sur ces 7 faits-là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que c'est important, même si ça fait 20 ans, 30 ans que tu connais Dieu, pourquoi est-ce que c'est important de redéfinir la grâce de Dieu? C'est parce que la grâce de Dieu, dès que tu y mélanges quelque chose, ce n'est plus la grâce de Dieu. OK? Et donc, c'est important qu'on ait commencé par la grâce de Dieu, qu'on continue par la grâce de Dieu. C'est super important parce que c'est quelque chose de si pur que qu'elle ne survit pas à un mélange. Tu ajoutes d'autres choses dedans ça, puis tu déformes Dieu. Et ça peut jouer, ça peut avoir un impact si grand d'ajouter quelque chose à cette grâce-là qu'une personne pourrait aller en enfer pour l'éternité. Juste parce qu'elle aura subi un mélange. Ça pourrait amener une personne à jamais être en règle avec Dieu, jamais à vivre de la grâce de Dieu, juste parce qu'elle n'a pas compris que cette grâce-là ne pouvait pas subir aucun mélange. Donc, ça peut aussi être ce qui va faire que vous stagniez en tant que chrétien ou bien non, que vous vivez de la grâce de Dieu, que vous êtes une personne bénie, une personne qui reçoit grâce sur grâce, une personne qui ne reçoit rien du tout. Donc, c'est super important que même si vous avez déjà entendu des choses qui ressemblent à ce que je vous dis, que vous alliez vous-même voir dans les Écritures si ce que je vous dis est vrai, mais que si c'est vrai, vous affirmiez votre pensée dans la grâce de Dieu. Super important pour qu'on puisse faire comme Pierre recommande dans 2 Pierre 3,18, « Grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » 7 faits en rafale que je vous donne, puis après ça, on va voir ça dans le message. 1, si vous ne les comprenez pas complètement, je vais les expliquer tantôt. Elle n'est pas refusée pour cause d'indignité. Dieu ne refuse pas sa faveur pour cause d'indignité. 2, elle ne peut être diminuée pour cause d'indignité. Dieu ne la donnera pas moins parce qu'une personne est plus indigne. Elle ne peut contracter une dette. Elle ne s'exerce pas dans le juste acquittement d'une dette. Elle n'est jamais l'acquittement trop généreux d'une dette. Elle n'apparaît pas dans les rapports immédiats de Dieu avec le péché des incroyants. Et elle n'apparaît pas dans les rapports immédiats de Dieu vis-à-vis des péchés des croyants. OK, on va commencer avec le numéro 1. Elle n'est pas refusée pour cause d'indignité. Ça, c'est le fait le plus évident à propos de la grâce. Qu'est-ce qui pousse l'homme à implorer Dieu pour sa miséricorde? C'est son sentiment d'indignité. Hein? Vous avez ça des fois dans les films là, où ce qu'un prisonnier demande la grâce. Il demande la grâce d'être gracié par le président ou par le roi, c'est-à-dire d'être délivré. C'est son indignité, c'est sa culpabilité qui l'amène à essayer de chercher cette grâce-là. La grâce est glorifiée quand l'homme ne peut rien faire. Puis, la grâce de Dieu est donnée quand l'homme est en position de ne pas mériter. Si Dieu il dit, OK, c'est une faveur non payée de retour, mais on pourrait aussi dire que c'est une faveur qui n'est pas méritable ou pas méritée. Dieu dit, OK, je veux te donner quelque chose, tu ne peux pas rien faire pour le mériter, tu l'as même démérité. Si Dieu devait t'enlever une faveur que tu n'as pas pu mériter ou que tu as démérité, s'il devait te la retirer, à cause de ton indignité ou parce que tu as fait quelque chose, c'est pas une grâce. C'est pas une grâce. Parce qu'une grâce, c'est quelque chose qui est donné qu'on ne peut pas mériter, donc on ne peut rien faire pour la démériter. Une vraie grâce, c'est une faveur qui est donnée. Et s'il y a une notion de mérite, ben là, c'est là qu'on vient ajouter un mélange. Il y aurait alors, s'il y aurait une notion de mérite, « Ah, toi, tu as trop échoué, donc tu n'as pas le droit. Tu n'as plus droit. Hein? » Il y a des chrétiens, des fois, qui justement doutent de leur relation avec Dieu parce qu'ils regardent un peu à leur marche et ils réalisent qu'ils sont peut-être à un endroit où ils ne méritent plus l'amour de Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas du tout la grâce de Dieu. La grâce ne peut s'exercer à cause du mérite humain. Si Dieu il veut donner une faveur, ce n'est pas à cause du mérite humain, c'est à cause de son amour pour nous. OK. Premièrement, c'est important de dire que Dieu, quand il donne sa faveur, il faut d'abord qu'il traite le problème du péché dans votre vie. Donc, avant que la grâce rentre en scène, avant que Dieu donne cette faveur-là, qui est non payée de retour, il doit venir enlever le péché. Il doit venir traiter le péché, okay? Et donc, il y a quelque chose qui se passe avant la grâce de Dieu. C'est que Dieu vient enlever votre péché à la croix. Et c'est ça qu'il fait à la croix. Il meurt pour tous les péchés de tous les hommes et de tous les temps. Et je le répète, il meurt pour tous les péchés de tous les hommes dans tous les temps. Passé et encore pas encore arrivé. Il est mort pour les, il a été puni et versé son sang pour les péchés que tu n'as pas encore faits. Comment il peut l'avoir fait? Pas à cause qu'il connaît toutes choses d'avance, mais parce que le prix qu'il a payé est infini et que ça absorbe aussi toute dette que tu pourrais contracter envers ton Créateur. Okay? Donc, à la croix, Dieu ne vient pas enlever juste le péché des croyants. Il ne vient pas enlever les péchés de ceux qui ont péché un peu. Il vient enlever les péchés de tous les hommes. En fait, il vient payer la dette des péchés de tous les hommes et de tous les temps et de tous les lieux. Et donc, Jean 1, 29, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour Dieu, le problème de ton indignité puis de l'indignité de tous les hommes est réglé à la croix. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Pour Dieu, tu es considéré comme ayant subi une punition pour tes péchés. Que tu sois croyant ou que tu ne le sois pas. Que tu sois Canadien ou Français ou de Zimbabwe, ta dette a été clairée. Pour Dieu, tu as déjà reçu la punition que méritaient tes péchés. Ben, attends une minute, je n'ai pas été puni. Ben, il a été comptabilisé sur la personne de Christ que si lui est mort pour tous, ben, ça veut dire que pour Dieu, tous sont morts. Et tous ont reçu la punition que méritait leur péché. Wow! Quelle belle nouvelle! À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il reste à l'homme à choisir. Est-ce que j'accepte que ma dette a été payée par lui ou je rejette que ma dette a été payée par lui? Savez-vous aujourd'hui que si une personne va en enfer, si elle meurt aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle a péché un peu, moyennement ou beaucoup? Ça ne peut pas être ça puisque Christ a payé sa dette pour pas qu'il soit puni. Ça ne peut pas être à cause de ça. Ça peut être simplement à cause qu'elle n'accepte pas ce qu'il a fait. Et donc, le péché qui a été placé sur Christ, qui a été payé, puisque la dette est refusée, le transfert ne peut pas avoir lieu, Dieu dit, OK, puisque le transfert ne peut pas avoir lieu, c'est toi qui vas payer pour tes propres péchés. Alors, c'est pour ça qu'on voit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ici, ce n'est pas « Hey, celui qui pêche beaucoup est jugé, et celui qui pêche pas ou très peu va aller au ciel. » Ça n'a rien à voir. On ne va pas au ciel parce qu'on ne pêche pas, puis on ne va pas en enfer parce qu'on pêche beaucoup. Tout le monde, on est sur le même pied d'égalité. Quelqu'un a payé pour nous. Et on est tous placés devant un choix, croire qu'il l'a fait, refuser qu'il l'a fait. Et c'est ça que ce passage-là dit. Pourquoi ils sont jugés? Ils sont jugés pourquoi? Parce qu'ils croient, celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, on n'est pas jugé à cause de la grandeur de notre péché, à cause de notre indignité, on est jugé si on n'accepte pas que lui a été jugé. À notre place, Dieu dit, tu ne veux pas qu'il y ait un autre qui paye pour toi? Pas de problème, je t'aime assez pour te laisser libre. Tu veux être jugé toi-même? Pas de trouble. Fait que là, il nous laisse, puis on s'en va être jugé. T'sais. Donc, croire qui Jésus est nous sauve, ou nous permet de recevoir cette grâce-là. Donc, Dieu dit qu'il donne sa grâce aux humbles, puis il résiste aux orgueilleux. Il donne sa grâce aux hommes. C'est quoi une personne humble? Bien, une personne humble, à quelque part, c'est qu'elle reconnaît que Dieu est le roi, que Christ est son fils, puis que lui a le droit d'être obéi, puis j'ai besoin d'être pardonné, puis que lui a fait tout pour que je sois pardonné. Il a pris ma dette, et donc je ne vais pas payer ma facture. Je m'humilie, c'est-à-dire que je me reconnais comme pécheur, je me reconnais comme endetté envers Dieu, puis j'accepte que c'est lui qui paye. Ça, c'est de l'humilité de faire ça. L'orgueil, c'est « Hey, je ne suis pas si pire que ça, moi. » Je veux dire, je suis capable d'être une bonne personne. C'est de se fier en soi, puis de rejeter l'offre qui nous est faite dans la personne de Jésus. Et la Bible dit « Dieu donne sa grâce aux uns, mais il résiste aux orgueilleux. » Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Une personne qui refuse ce qui a été fait pour elle, eh bien, elle est résistée, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas la grâce de Dieu. Deuxièmement, la grâce ou la faveur non payée de retour ne peut être diminuée pour cause d'indignité. Dieu, il ne veut pas agir moins, je vais utiliser un mot miséricordieusement, mais miséricordieux, ça veut dire aussi avec pardon. On pourrait changer le mot par pardon. Dieu ne peut pas agir avec moins de pardon avec un grand pécheur et plus de pardon avec un petit pécheur. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que, bon, ici, vous avez, c'est écrit « mauvaise œuvre », puis ici, c'est « miséricorde ». OK? L'idée là-dedans, c'est que ça ici, ce serait les choses en bas de zéro, donc les mauvaises œuvres qui t'ont créé une dette envers Dieu. Dieu, il ne pourrait pas dire « regarde, toi, tu n'as pas été un grand pécheur, fait que je vais te donner beaucoup. Je vais te donner beaucoup de bonté, de miséricorde, de bonté. Puis à celui qui est un grand pécheur, il en donnait un petit peu moins. Okay? Dieu, il ne cherche pas à combler ce qui manque dans notre vie et à notre réputation. Il dit, hey, toi, tu es vraiment une bonne personne, là, fait que je vais être vraiment bon avec toi. Puis toi, tu es oh, gros méchant. Toi, tu es méchant. Toi. Méchant, méchant, méchant. Toi, tu vas aller dans un purgatoire, puis on va te faire tourner des messes. Il y a des gens qui vont prier pour toi sur la terre jusqu'à temps que tu sortes de là, puis que on va te faire travailler un petit peu pour ton ciel, tu sais. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'abondance du péché va rencontrer l'abondance du pardon. Ça veut dire que si tu as péché plus, tu vas avoir plus de pardon qu'une personne qui a péché moins. Grosso modo, ça ressemble plus à ça. Tu es un petit pécheur. Tu es quand même une bonne personne, tu as fait de ton possible. Même quand tu faisais le bien, il y avait le mal qui n'était pas loin, mais bon, tu sais, tu as quand même fait des bonnes choses dans ta vie, tu sais. Mais tu as besoin d'être pardonné pareil, tu sais. Fait que tu t'es pardonné un peu. Puis toi, boy, toi, tu es un grand pécheur, mais tu es venu à la croix et tu as reçu beaucoup de pardon. Il y avait cette femme prostituée qui était venue. Dans Luc chapitre 7, elle vient, il y a un gars qui s'appelle Simon le pharisien, il fait un repas, il n'a même pas lavé les pieds, comme c'est supposé, la coutume, tu sais, puis elle rentre, mon ami, elle se met à genoux, commence à pleurer, il lave les pieds avec ses larmes, puis elle l'essuie avec ses cheveux, tu sais. Puis, les gars, ils disent, sais-tu, c'est qui est en train de te toucher, tu sais, autrement dit, c'est en train de te faire souiller par une grande pécheresse. Quand on voit le mot pécheur dans la Bible, c'est soit des publicains, soit c'était des prostituées. Et elle était une pécheresse. Et elle donnait son corps aux hommes. Puis elle vivait comme ça, tu sais. Puis Jésus dit, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et parce que cette femme-là, elle a besoin d'être pardonnée beaucoup. Cette femme-là reçoit assez à qui, en présence de qui elle est. Elle est en présence du Messie. Elle a besoin d'être pardonnée de beaucoup. Et elle aime beaucoup. Mais il dit, moi, il dit, depuis que je suis rentré chez vous, tu ne m'as même pas lavé les pieds. Puis cette femme-là, elle me lave les pieds avec ses larmes. Et donc, la bonne nouvelle de la grâce, c'est que c'est pas si tu es un petit peu digne, tu vas en avoir beaucoup. Puis si tu es très indigne, tu n'en auras presque pas. Non. La grâce n'est même pas en train d'embarquer présentement. On parle juste de dire, OK, il faut régler le problème du péché. Petite dette, petit remboursement. Grande dette, grand remboursement. Crime, ce n'est pas ça qu'on a appris dans la religion. On a appris dans la religion que si on faisait les commandements, qu'on finirait par mériter un petit peu de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Mais quand on se tourne vers la Bible, quand on se remet les yeux devant les trous puis qu'on regarde la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, celui qui a péché peu, va être pardonné peu, celui qui a péché beaucoup va être pardonné beaucoup. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu qui vient avant même que la grâce vienne embarquer. Laissez-moi vous expliquer un petit peu. Le pardon, ce n'est pas un acte de grâce. C'est un acte légal qui se passe devant le juge de l'univers, le Père qui est le juge de tous. Et il se passe quelque chose que Dieu dit, « OK, parfait, tu vas être pardonné. » Pardonner, c'est un acte de justice, ça veut juste dire que tu ne reçois pas le bill, tu ne reçois pas la facture que tu étais supposé de payer. Hein? La miséricorde, on dit que c'est quelque chose que tu méritais, qui t'est enlevé. La grâce, c'est quelque chose que tu ne méritais pas et qui t'est donné. Donc, la miséricorde vient, puis La miséricorde, c'est un acte légal où c'est le juge qui dit « OK, Jason, Jean-Sébastien, Philippe, Éric, Victoria, chacun d'entre vous, il prononce votre nom et dit « Tu ne me dois plus rien ». Il efface ta dette et tout ce qui était en quasi-judiciaire contre toi qui t'amenait à aller en enfer et est allé à être payé pour tes péchés en enfer est enlevé et placé sur le Fils. Hein? Et ta dette est reconnue quand que toi, tu la reconnais aussi. Puis tu dis, c'est-tu quoi? Je reconnais que c'est cette dette-là puis j'accepte qu'elle a été payée. Il faut qu'il y ait cette acceptation. Mais qu'est-ce qui arrive? Le pardon à ce moment-là, lorsque tu dis, oui, j'accepte que Jésus a payé pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Le juge de l'univers dit, ta dette est payée. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le pardon vient faire une soustraction et la grâce vient faire une addition. Donc, si on regarde ça un petit peu, il met les comptes à zéro. Fait que toi, Éric, tu es un petit pécheur, puis moi, je suis un gros pécheur, OK? Mais qu'est-ce qui me compare à toi maintenant? Rien. J'étais le plus grand des pécheurs, toi le plus petit des pécheurs, mais ensemble, on cumule une dette de zéro. Chacun d'entre vous, on pourrait mettre votre nom ici dans le graphique, ça c'est votre dette, que vous l'ayez acceptée ou que vous ne l'ayez pas acceptée, la dette est éclairée pour chacun d'entre vous. Fait que c'est plus une question d'indignité, c'est plus une question « Hey, tabarouette, toi, je veux dire, on va prier le ciel, tu sais, qui te fasse grâce. » Non! Parce que le pardon a entré, ta dette a été effacée, puis là, on est tous placés ensemble dans un endroit d'égalité. Et c'est comme ça que Dieu est juste avec tous les hommes, c'est qu'il les place tous à zéro. Flac! Il fait tomber le compte à zéro, puis là, qu'est-ce qui arrive? Chacun, à chacun, est proposé, et c'est là l'affaire. C'est qu'il y en a qui vont avoir un compte à zéro, mais ils ne recevront jamais la grâce de Dieu. Là, on a dit que la miséricorde, c'est le pardon. Et le pardon, ça veut dire remise de la dette à zéro. Il paye ta dette, il vient enlever quelque chose, et la grâce de Dieu vient te donner quelque chose. Et là, dans l'acte, et là, il y a un acte de justice, mais qui est gracieux, c'est-à-dire que Dieu vient déclarer que tu as la justice de son Fils. Mais ça, il ne fait pas tout le monde. Ça, il ne fait pas tout le monde. Il donne sa grâce aux uns et il résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire que si tu acceptes qu'il a payé pour toi, puis tu acceptes qui Jésus-Christ est, qui est Dieu fait homme, qui est mort sur la croix pour toi, paf, 100%. Dieu dit, hey, c'est quoi? Ticket pour le ciel. Tu vas passer comme si c'était mon fils qui passait devant moi, tu vas rentrer dans l'éternité comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Puis on sait très bien que ce n'est pas vrai qu'on n'a rien fait de mal, mais on reçoit dans notre compte un transfert bancaire. Et Dieu dit, je te donne la justice de mon Fils Jésus. Wow! Donc, le pardon vient et fait un acte. Je pense que je l'ai sur un autre acétate. Non, je vais le voir plus tard. La justification vient donner la justice de Christ. Quand on dit dans la Bible qu'on a été justifié, que les croyants sont justifiés, c'est qu'ils ont reçu la justice de Christ, puis ça, c'est indépendant de petits pécheurs, grands pécheurs. Peu importe, ça n'a rien à voir avec notre dignité, ça a rapport avec notre valeur. Puis on a tous reçu cette valeur-là, qui est égale d'avoir une dette payée. OK, trois, elle ne peut contracter une dette. Si il n'y a rien que tu as pu faire d'assez bon dans ta vie pour que Dieu dise, « Hey, tu sais quoi, toi, je te laisse rentrer. Je te donne ma grâce. » S'il n'y a rien que tu as pu faire de bien pour l'obtenir avant, il n'y a rien que tu peux faire de bien après pour le repayer. Il y a des gens, souvent, on s'est fait dire, je le dis souvent, dans l'Église catholique, on a souvent dit, « Faut que tu travailles pour gagner ton ciel. » Mais on a souvent dit aussi des protestants, toi, chez les protestants, si tu le reçois tout de suite, il faut que tu le payes plus tard. Parce que la grâce a été mélangée avec quelque chose du mérite humain, on dirait que les chrétiens qui ne sont pas bien affermis dans la grâce passent leur vie à rembourser le prix payé. Laissez-moi vous dire, et c'est pour ça que je prêche là-dessus, c'est qu'une église de la grâce, c'est une église qui doit porter son nom. Et cette grâce-là ne doit subir aucun mélange. Si tu ne peux pas payer avant, tu ne peux pas payer après. Tu ne peux pas payer pendant. Si tu passes ta vie à rembourser ce que Jésus-Christ a fait tu as une mauvaise conscience et tu ne comprends pas que ce n'est pas ce que tu fais pour lui qui te rachète, c'est ce que lui a fait pour toi. Si tu devais repayer, c'est plus une grâce. Si tu dois refaire quelque chose pour ton sauveur, suite au fait qu'il t'a sauvé, si tu dois faire ça pour le conserver, c'est plus une grâce, c'est un salaire. Mon boss, il ne me tape pas sur l'épaule, il me dit « Hey, je suis bon, hein? Je te donne ta paye cette semaine. » Non, non, tu as travaillé pour l'avoir. C'est normal qu'il te paye parce que tu as fait quelque chose qui méritait un salaire. Mais quand on va aller au ciel, il n'y a personne d'entre nous qui le mérite. Hein? Et donc, à moins qu'il faut l'avoir travaillé, bien, à ce moment-là, on va le mériter. Mais la Bible a dit que ce n'est pas comme ça. Donc, la grâce, c'est une faveur non payée de retour. C'est ça la définition qu'on a donnée aujourd'hui. Ah, Seigneur, je suis tellement reconnaissant. Seigneur, je vais être reconnaissant pour l'éternité, pour ce que tu as fait pour moi. Je veux te servir. OK, super. Ça va-tu me sauver plus? Et si jamais, toi, tu dis, ah, moi, c'est quoi? Oh, je ne veux pas le servir. Ça va-tu me sauver moins? C'est ça l'affaire. C'est important vraiment de discerner ça. Légalement, un don peut être appelé un don légalement, un don ne peut être appelé un don si tu dois payer avant, à la livraison ou après que la chose a été donnée. Un don pur, la Bible en parle dans Romains 6, 23, elle dit c'est un don, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. Jean 10, 28, Jésus dit, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Mais là, il en parle, après ça, il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Il ne dit pas, je leur échange la vie éternelle. Il leur dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Il n'y a aucune offrande que tu peux donner en argent ou un don de toi que tu pourrais faire pour obtenir, pour rembourser une faveur que Dieu t'a donnée par pure grâce. Et en fait, ça l'attristerait, Dieu, si tu penses comme ça. Si tu penses que maintenant que tu as compris l'amour que Jésus a eu pour toi, tu veux lui montrer qu'il a bien fait de te racheter. Ça attristerait son cœur. Parce que c'est par pure grâce, c'est-à-dire non payé de retour, que Dieu veut te le faire. Ça attriste le donateur. Pourtant, ça a l'air bien intentionné, tu ne trouves pas? Je voudrais dédier ma vie au Seigneur pour lui redonner tout ce qu'il a fait. C'est tellement peu que ce que je peux lui donner, tu sais, mais à comparer à ce qu'il a fait. Ça a l'air tellement pieux, mais en même temps, c'est souillé. C'est souillé parce que c'est en train de dire, sais-tu quoi? Le prix de te payer manque un petit peu. Donc, je vais payer pour rembourser une partie de ce qui a été payé parce que ta croix n'est pas suffisante. Et c'est une insulte à la grâce de Dieu que de vouloir rembourser quelque chose que Dieu dit, je te l'offre de bon cœur, même si tu ne le mérites pas. Mais est-ce qu'on va le servir? Bien oui, on va le servir. Le service chrétien, la fidélité, oui, c'est une expression d'amour, oui, c'est une réponse à la croix, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je le mérite ou non. Ça a rapport au fait qu'il m'a tellement aimé, je veux aussi l'aimer et je veux le servir. Mais ce que ça va influencer, ce n'est pas si je suis digne d'être acheté ou non, c'est ce que ça va influencer, c'est mes récompenses. On appelle ça en grec le mot « bema », c'est le jour des récompenses. Un jour, chacun d'entre vous, vous allez être placé devant Dieu, puis Dieu va t'évaluer, puis il va regarder tes œuvres. Il va regarder tes choix, ce que tu as pensé, ce que tu as dit. Puis il va te récompenser pour ce que va avoir été ta vie sur la terre. Et il va te donner des récompenses pour la marche que tu as eue. Et c'est clair que les chrétiens, la Bible a dit qu'ils sont créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Regardez comment Dieu est merveilleux. Dieu nous crée, nous place sur la terre, puis il nous dit, « Servez-moi. Je vous ai donné une valeur, une identité. Mettez cette valeur-là en action. Servez votre prochain et servez Dieu. » Fait que là, nous autres, on dit, « Y a-t-il une autre option? » Oui, vous pouvez vous servir vous-même, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Fait que là, l'homme choisit de se servir soi-même, fait qu'on se sert nous-mêmes. Puis là, Dieu, il nous envoie son Fils pour mourir pour nos péchés. Puis il dit, hey, vous l'avez accepté? Servez-le. Servez-le maintenant que vous l'avez accepté. C'est pas puisque vous l'avez accepté, servez-le pour rembourser une partie de ce qu'il a payé. Là. C'était déjà là, il fallait déjà le servir, il fallait déjà l'obéir. On était placés sur terre pour ça, c'était déjà quelque chose qui était là, mais on a perdu cette capacité-là, le péché nous a rendus égocentriques, rivés sur nous-mêmes. Puis là, il nous dit, OK, vous êtes pardonnés, et hop, on nettoie les taches, on nettoie la saleté qui est sur vous. Maintenant, lève-toi, puis fais ce que tu étais supposé de faire en premier lieu. Wow! C'est pour ça que la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus dit, « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas, moi. » Tout le monde voulait y lancer des pierres. Puis Jésus dit, « Va et ne pêche plus. » Il n'est pas en train de dire, « Je te pardonne, mais pêche plus, là. » C'est pas ça, non. Tu étais déjà supposé de ne pas pêcher, mais te voilà en train de faire l'adultère contre ton mari. Il y a un guet-apens qui lui a été tendu, bien sûr. Mais Jésus dit, « Je te condamne pas. » Mais pas, si tu ne veux pas, je te condamne. Elle ne repêche plus, là. Non, tu es pardonné. Allez, tu as une capacité. Relève-toi maintenant, puis sœur. Relève-toi, puis fais ce que tu étais supposé de faire en premier lieu. Hein? Et donc, ça, c'est une belle image de restauration, parce que Dieu, il dit, je te crée pour le servir. Il nous crée pour le servir. On faiblit, on faille. Et là, qu'est-ce que sa grâce vient faire? Sa miséricorde vient enlever notre dette, enlève la dette. Elle nous replace sur nos pieds, puis elle nous donne en plus de ça une belle robe, si on pourrait dire, ou une robe, les gars. Mais en tout cas, dans le temps, c'était tout le monde était bien en robe, c'était moins pire. Bon, il nous redonne des nouveaux vêtements. Tu sais. Il efface nos tâches, puis il nous donne la possibilité de le servir comme au départ. Ça, c'est ça. Ah, OK. Elle n'est pas... On va aller au prochain. Wow! OK, mon graphique était après. Elle ne s'exerce pas dans le juste acquittement d'une dette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'une personne ne peut pas avoir été assez bonne pour que Dieu juste lui acquitte sa dette. En graphique, ça voudrait dire ça ici. Ah, maudine, lui, il n'est pas supposé apparaître tout ça. OK. Ah! Regardez pas là, ici. Ça, c'est péché, ça, vous regardez là. Regardez pas là, c'est péché. C'est pas péché. Hein? Le but, c'est de ne pas pécher. Non, c'est une joke. OK, regardez ici. Cette personne-là s'est mise dans la dette. Ah, mais elle dit à Dieu, regarde, je n'ai pas été si pire que ça. Fait que ce serait juste quand même que tu m'accordes ma dette, tu sais, que tu claires ma dette. J'ai quand même, les bouddhistes vont faire souvent ça. Ils vont acheter de la loterie, ils achètent bien gros de la loterie, puis ils vont aller donner de l'argent, autant d'argent à Bouddha que de l'argent qu'ils ont donné à la loterie. Puis dans l'idée, c'est d'apaiser, de donner autant de bon que de mal qu'ils ont fait, tu sais. Fait que la personne peut arriver, puis souvent les gens, ils voient la grâce de Dieu comme ça ou la bonté de Dieu comme ça. Ils disent, j'ai usé, regarde, tiens, regarde, qu'est-ce que j'ai fait ici, qu'est-ce que j'ai fait ça. Puis qu'ils vont avoir un juste acquittement de leur dette parce que le bien va compenser. Oh, là, ce gars-là, il est dans le... Ouf, il n'a pas fait assez de bon, ça serait... Mais la miséricorde n'est pas le juste acquittement d'une dette. Dans cette vision-là, l'homme est traité comme il le mérite. Toute la famille, il faut, si on mérite quelque chose, chacun qui sommes ici, si on mérite quelque chose, on mérite tous d'aller en enfer. C'est-à-dire, séparé d'avec Dieu, et là où ce que la manifestation de son amour, de sa bonté, et là où les cieux et la terre sont enlevés, puis il reste juste les démons qui ont choisi de se séparer de lui, puis on n'a plus aucune manifestation de ce qui nous montre sa bonté. Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la déclaration judiciaire qui a été faite déjà dans Romains 11, au verset 32, c'est écrit, « Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Okay? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que nos premiers parents ont désobéi, tout le monde, on a été mortel, c'est-à-dire séparé d'avec Dieu. Puis on a commencé à vivre nos vies comme bon nous semblait, puis à un moment donné, on a fait des choix, puis ces choix-là, c'est des choix séparés d'avec Dieu, puis on a fait des péchés. Et là, on a accumulé des dettes envers le Créateur. Et donc, on a tous développé une culpabilité avec le Créateur. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé tous les hommes et les femmes dans la conséquence du péché d'un homme, qui est Adam, pour pouvoir aussi mettre tous ceux qui croiraient dans les conséquences du choix d'un homme. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde, on a été emporté dans la chute d'Adam qui a péché. On a subi une conséquence qui est quand on est né, on est séparé d'avec Dieu, puis éventuellement, on reçoit une nature mortelle, parce que ce serait injuste de nous attribuer le péché d'un autre. Ça, c'est injuste de dire, hey, toi, tu es pécheur parce qu'il y en a un autre qui a péché. Moi, je veux dire, on a fait ça à l'école, puis ça m'a blessé au fond, là. De m'attribuer quelque chose que quelqu'un d'autre avait fait, ça m'a anéanti. La Bible ne dit pas qu'on a hérité du péché d'un autre. Elle dit qu'on a hérité de la condamnation d'un autre. Donc, Dieu a enfermé tous les hommes dans la condamnation d'un pour qu'il puisse enfermer tous les hommes qui croient dans la justification d'un autre. OK. Vous lirez ça dans Galates 3, 22, Romains 11, 32. À cause qu'on a déjà pris du temps dans le rassemblement, je vais aller un petit peu plus vite. Il ne s'exerce pas dans le juste acquittement d'une dette, ça je l'ai vu. Elle n'est jamais l'acquittement trop généreux d'une dette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est l'image plus d'un pourboire. L'homme a servi le Créateur et Dieu lui acquitte sa dette, puis en plus lui donne une... Fait qu'on voit ça ici. Ça ici, c'est sa dette qui est accumulée contre Dieu. Ça ici, c'est la bonté qu'il a eue, mais il n'a pas complètement compensé. Alors la miséricorde vient et elle en donne un petit peu plus pour compenser. Ce n'est pas l'acquittement plus généreux d'une dette. Ça n'a rien à voir. Okay? Dieu ne vient pas additionner ou donner comme un pourboire ou quelque chose de plus pour qu'on puisse être sauvé. La grâce, c'est un don et ce n'est pas un échange. Elle peut être donnée dans tous les cas et elle peut être donnée dans n'importe quel cas. OK, on va aller au prochain point. Elle n'apparaît pas dans les rapports immédiats de Dieu avec le péché des incroyants. Dieu, là, quand il regarde le péché, là, il n'y a pas de pitié envers le péché. Dieu déteste le péché. Il est 3 fois 5. Puis jamais, 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 il va faire ça comme ça, puis il va dire, sais-tu quoi? Je ne te jugerai pas. Il n'y a pas un péché qui va être impuni. L'indulgence, ce n'est pas quelque chose qui est même dans la nature de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est par rapport au péché. Il est indulgent envers le pécheur. On va voir comment il procède. Donc, Dieu, si on le présente comme clément envers ceux qui ont péché, puis qu'ils ont fini par être pardonnés, puis aller au ciel, là, ben c'est comme de dire, la croix n'a pas servi pour ces gens-là. OK? Le péché, Dieu doit s'en séparer. Dieu se sépare du péché, qu'il soit fait par un croyant ou par un incroyant. Sa sainteté l'amène à s'en séparer. Et la croix... Tant qu'elle n'est pas venue pour manifester toute la colère de Dieu contre le péché, la grâce de Dieu n'est pas libre d'agir envers le pécheur. Donc, qu'est-ce qu'on... Elle fait la grâce, elle vient après le pardon. OK. Ça, on l'a vu. Donc, puisque Dieu déteste le péché, il ne peut pas juste venir donner ses faveurs à une personne. Il doit absolument traiter le problème du péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première affaire, c'est qu'il vient punir le péché. Et une fois que le péché a été puni, Dieu est maintenant libre, alors que tout le monde, leur compte a été mis à zéro, il est libre de donner sa grâce, puis ses faveurs non payées de retour. Donc, ça n'a rien à voir avec le péché. Okay? La grâce de Dieu n'a rien à voir avec le péché. Puis, c'est ça. Tous les hommes, on est appelés à réaliser qu'on peut se tenir devant Dieu, pardonné dans la justice d'un autre. Pas parce que Dieu a été beaucoup clément envers un et peu clément avec l'autre, mais parce qu'il a répandu son sang et il a payé un prix suffisant pour nous pardonner. Le prix est infini, le pardon est définitif. Fait que la personne qui reconnaît qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous, ses péchés passés, c'est réglé. Dieu lui accorde la position de fils, il lui donne d'être comme son fils Jésus-Christ, le 100% qu'on a vu tantôt. Puis, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir rester un fils jusqu'à temps que Jésus revienne, puis que je sois un fils de Dieu, puis que je vais aller au ciel? C'est que la mort de Jésus-Christ sur la croix a aussi payé en provision, comme si c'était un genre de gros compte de banque, dans lequel à chaque fois qu'il y a des péchés qui sont faits, il y a un retrait qui est fait. Et la somme est tellement infinie qu'une fois que je me suis tourné vers Jésus puis j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi, sa mort devient une provision aussi pour tous les besoins de pardon que je vais avoir dans le futur. Okay? Et donc, c'est pour ça que je reste un fils, pour toujours, à cause de ça. OK, et le dernier point, si on passe ça, si on passe ça, si on passe ça, on va finir avec le passage dans l'Apocalypse 20. La grâce de Dieu n'apparaît pas dans les rapports immédiats de Dieu vis-à-vis les péchés des croyants. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis devenu croyant, la Bible dit que j'ai été appelé un juste, non pas à cause de ma justice, mais à cause de la justice de Jésus. Dieu va quand même agir de la même manière envers le péché d'une personne qui a pas encore cru, d'une personne qui a cru. C'est-à-dire que c'est à la croix que ça se passe. Et la croix, elle a placé celui qui a cru à qui Jésus est et ce qu'il a fait pour nous, a fait de moi un fils pour toujours, mais j'ai encore besoin régulièrement d'être pardonné par Dieu pour les péchés que j'ai faits. OK? C'est-à-dire que ma dette éternelle est payée, mais dans ma relation de père et fils avec Dieu, j'accumule des reproches. C'est-à-dire que j'ai blessé mon Dieu par le péché et j'ai besoin d'être pardonné. Non pas de ma dette éternelle, puis à cause que je vais être condamné avec le reste du monde, mais j'ai besoin de me mettre en règle avec mon père. OK? Et donc, la croix, elle demeure le moyen par lequel mon péché est pardonné. OK? Et que ma relation est rétablie avec le Père. Quand je ne croyais pas encore, Dieu ne me disait pas, fais une liste de tout ce que tu as fait, de tes péchés, nomme-les toutes par leur nom, puis je vais effacer ta dette. Il m'a juste dit, reconnais qui il est et ce qu'il a fait pour toi. Il a payé la dette de tes péchés. Et ce que j'avais besoin de faire, c'est de croire en lui. Maintenant que j'ai accepté qui il est, maintenant, il est rendu mon avocat, il est rendu mon grand prêtre, et puis j'ai maintenant à avoir une relation avec lui, puis maintenant, ce que Dieu me demande, ce n'est pas de croire en lui, c'est de confesser mon péché et le nommer par son nom. Dans 1 Jean 1,7, il est mon grand prêtre. Dans 1 Jean 2,2, il est mon avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois que je vais le voir? Il me prend ma défense. Non pas qu'il défend mon innocence, il défend son innocence. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que je dis là? Oui, en tant qu'avocat, devant le juge de l'univers, il proclame son innocence, puis il rappelle la croix. Rappelle-toi que pour Jordan, pour Jean-Sébastien, pour Victoria, rappelle-toi, Père, que c'est moi qui ai payé pour ce qu'ils viennent de faire. Mon client te dit qu'il reconnaît qu'il a péché, Et je te demande, s'il te plaît, de ne pas le traiter selon son péché. Et qu'est-ce qui arrive quand un croyant fait ça, il juge son péché dans sa propre vie? En nommant son péché dans 1 Jean 1,9, Dieu est fidèle et juste, pas miséricordieux. Pourquoi? Il a déjà fait le paiement. Il a déjà fait l'enlèvement de la dette. C'est déjà réglé tout ça. Il est fidèle à ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et il a dit qu'il ne jugerait pas parce que Christ est mort à ta place. Il est fidèle puis il est juste d'accepter que cette justice que tu mériterais à cause du péché que tu as fait, c'est une justice qui a été accomplie sur la croix du calvaire. Il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de ton péché. Alors, pour celui qui n'a pas encore cru, il se tourne vers Dieu et Dieu lui dit, « Écoute, toi, tu as besoin de croire qui Jésus est et ce qu'il a fait pour toi. » Pour le croyant qui veut avoir une bonne relation avec Dieu, ininterrompu, qu'est-ce qu'il vient? Il vient et dit, « Père, ben Jésus, tu es mon avocat, je reconnais que j'ai péché. Voici ce que j'ai dit, voici ce que j'ai fait. Pardonne-moi. » Lui, il agit comme un sacrificateur aussi, puis il rappelle au Père que c'est par ses mérites à lui qu'on se tient devant Dieu, et l'affaire est bingo. Si je ne le fais pas, on va en parler, je finis avec ça, mais si je ne le fais pas, la confession, qu'est-ce qui arrive? Mais l'affaire, c'est que, mettons que tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de péchés, puis là, tu t'en vas voir Dieu, à Jésus-Christ, tu dis, « Hey, Jésus, tu es mon avocat, je reconnais que j'ai fait ça. » Je reconnais que j'ai fait ça. Pardonne-moi. Puis là, tu fais toute ta liste. Père, bénis-moi. Puis il y en a un autre qui a vécu dans toute la sainteté qu'aucune personne peut vivre. Oups, elle a un petit peu pillé ça, elle amène sa poussière à Jésus. Elle disait, pardonne-moi. Lequel des deux va être le plus béni? Les deux vont l'être. Parce qu'à partir du moment où le croyant confesse, il est pardonner, mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on va semer, ça continue, par exemple. Ça veut dire que si on a fait plein de choix, on vit avec les conséquences de ça, mais sais-tu quoi? Tu n'as pas moins le droit à la faveur divine si tu as été 10 ans à t'éloigner puis que tu dis, « Hey, Père, je vais revenir. » Que si tu t'es éloigné 5 minutes, tu es revenu, paf! Les deux, Dieu, il regarde puis il dit, « C'est une faveur non payée de retour. Tu veux être béni? Je vais te bénir. » Tu es en règle, il t'a confessé à date avec Dieu, pourquoi je ne te bénirais pas? Est-ce qu'il y a plus grand pécheur, plus petit pécheur? Non, ça est effacé et la confession fait que c'est effacé, c'est enlevé et Dieu est libre de donner toute sa bonté à cette personne-là. Et ça, c'est le message de la grâce. Que ça a l'air injuste. Si c'est injuste, c'est parce que vous vous confiez dans vos œuvres pour paraître dans une justice qui est la vôtre. Mais à partir du moment où vous êtes prêt à vous présenter devant Dieu avec la justice qui est la sienne, pas de problème. On finit avec ceci. Et la négligence. Ben, le premier, qui est une personne qui n'a pas encore cru, puis qui a dit, « Ouais, je suis placé devant tout un choix aujourd'hui d'accepter ou de rejeter qui Jésus est. Qu'est-ce qui arrive si je néglige ce choix-là? » Oh, pas ça, mais que je sois sur mon lit de mort, là, mais que je n'ai plus rien à faire. Une personne qui est encore incroyante peut négliger l'offre qui lui est faite de croire. Et un croyant parmi nous peut être ici de corps, mais de cœur séparé d'avec Dieu parce qu'il n'a pas confessé à date. Il n'a pas confessé. Le non-croyant n'a pas cru, le croyant n'a pas confessé. Il n'est pas passé par la croix pour confesser. Le premier, c'est le non-croyant qui refuse de croire en Jésus comme le Messie. Il refuse qu'une personne sans péché, Jésus, ait pris sur lui son jugement. Elle accepte alors pleine responsabilité de payer la dette de ses propres péchés. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va la laisser se présenter telle qu'elle devant lui. Et qu'est-ce qui arrive ici? Si elle arrive devant, pas la croix, mais devant le grand trône blanc. Hein? J'ai-tu une photo du grand trône blanc? Non. Elle arrive devant le trône blanc. Chacun d'entre nous, s'il ne se passe rien durant notre vie, on s'en va devant le grand trône blanc. Si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, puis on l'a rejeté, on s'en va devant le grand trône blanc. Et qu'est-ce qui se passe devant le grand trône blanc? Bien, Jésus dit que ce n'est pas à cause des péchés qu'elle a fait, mais à cause du péché qu'elle a fait. pas à cause des péchés, mais du péché. Et ce péché-là, dans Jean 16, 8, Jésus dit que le Saint-Esprit travaille dans le monde à convaincre les hommes de péché parce qu'ils ne croient pas en moi, Jésus va dire. C'est parce qu'on ne croit pas en lui qu'on va être condamné. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, ah, c'est, je viens de le lire, et l'autre, ensuite, il dit, celui, dans Jean 3, 18, Jésus dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Une personne dit, moi, je ne crois pas que le Seigneur a fait ça. Je ne crois pas que c'est vraiment vrai l'histoire de la Bible et tout ça. Je ne crois pas ça. Il est déjà jugé, pas il va être jugé, il est déjà jugé, il attend juste sa sentence. Okay, c'est ça qui arrive quand on néglige. On est déjà jugé. Puis laissez-moi vous lire le passage dans Apocalypse au chapitre 20. Je ne sais pas si vous avez tourné là. On est présentement à la fin, pas à la fin du monde comme ça s'en vient, tu sais, puis là, ça va être bouleversé, il va y avoir un nouveau gouvernement mondial, puis tout ça, là. On est complètement à la fin où ce que cette terre est jetée comme un vieux manteau dans le feu, puis je veux dire, les cieux, ça disparaît, puis il y a un nouveau décor, là, OK, complètement. On est donc à la fin, puis on est devant le grand trône blanc. Je vis alors un grand trône blanc, et celui qui était assis, c'est Jésus. La terre et le ciel s'enfuirent de lui et n'en trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut aussi ouvert, le livre de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui la contenaient. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à leurs œuvres. Alors, manière d'agir, j'ai ici. Verset 14. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort, et tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qui arrive sur l'Église? Dieu est un gentleman. Tu ne veux pas qu'il y en ait un qui paye pour toi, pas de trouble. Tu veux payer, pas de trouble. Et là, il y a un livre de vie et il y a un livre de vie de l'agneau dans la Bible. Le livre de vie existe depuis l'Ancien Testament. On le voit tout au long de l'Ancien Testament à trois reprises. On le trouve dans les psaumes, on le trouve dans les chroniques avec Moïse. Et c'est le livre des vivants. Et ceux qui sont effacés de ce livre-là, c'est ceux qui, durant leur existence sur la terre, n'ont pas cru à qui Dieu était. Ils ont été effacés du livre des vivants. Tandis que le livre de vie de l'agneau, c'est ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ont été placés. Leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il dit ici, c'est le livre de vie. C'est ceux qui n'ont pas cru. Hein? Parce qu'avant que Jésus-Christ vienne, on ne pouvait pas croire en Jésus. Mais on pouvait être certainement effacé du livre des vivants. Et donc, il dit le livre des vivants. Il y a deux livres et les deux livres vont être corroborés. Ils vont être corroborés, c'est-à-dire, es-tu dans le livre de vie de l'agneau? Puis est-ce que tu as été effacé du livre des vivants? C'est ceux qui ne furent pas écrits dans le livre des vivants, furent jetés dans l'étang de feu. Et là, sont jugés par rapport à leurs péchés et leurs œuvres. Mais ce n'est pas leurs œuvres qui les a amenés au grand trône blanc. C'est leur rejet du Sauveur. Puisque le Sauveur avait payé pour tout, ce n'était pas leur péché qu'ils amenaient. Mais à partir du moment où ils disent, moi, je veux payer moi-même ma facture, là, la facture leur est redonnée et ils sont jugés. C'est pour ça qu'il dit, il y a un livre et des livres. C'est quoi ça, des livres au pluriel? C'est qu'il y a un livre qui est écrit pour chacun d'entre nous et nos œuvres sont écrites là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que si on néglige pas qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, le livre à mon nom est placé sur le Fils. Jean 5, 24 dit que si on croit en lui, on est passé de la mort à la vie, on ne viendra jamais en jugement. On ne viendra jamais en jugement. Mais si on néglige, on peut aller en jugement. Puis pour nous autres qui sommes croyants, qu'on a accepté, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait, qu'est-ce qui arrive, tu sais, si je néglige, admettons là, que je néglige, puis que tu sais, je ne confesse pas mes péchés, puis je ne vis pas pour le servir, puis je ne marche pas dans une communion d'obéissance avec lui. Qu'est-ce qui arrive? Bien, j'ai quand même à faire face à deux jugements. Il y en a un jugement que ça s'appelle le jugement d'un père avec son fils. Dans Hébreux 12, il dit que Dieu corrige ses enfants pour leur bien en vue de les ramener sur la bonne traque. Pas parce qu'ils ont perdu ou qu'ils vont perdre leur salut ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a accepté que Dieu soit un père pour nous. Donc, attends-toi que si tu négliges de confesser tes péchés et d'être sérieux avec Dieu, que Dieu va agir comme un père parce que c'est un père que tu as accepté. Puis c'est un roi aussi qu'on a accepté. Puis le roi de l'univers, le souverain, a le droit d'être obéi. Et donc, un jour, va aussi avoir une remise de récompense. Et le tribunal n'est pas le grand trône blanc, mais l'évaluation de tes œuvres aussi. Donc, chacun d'entre nous aussi, on va être évalué d'après les œuvres qu'on va avoir faites, même si on a été racheté. Parce que Dieu veut récompenser. Puis, il ne veut pas que tu aies le même genre de belle éternité que tout le monde. Il veut que tu aies une éternité que tu mérites. Donc, il y a une partie qui est basée sur tes mérites. Et c'est celle d'avoir marché. Ça, c'est un salaire. Tu travailles puis tu auras une paye. Mais ça n'a rien à voir. Si tu vas au ciel, il n'y a personne ici qui va dire psh, psh. Hey, tu sais quoi, moi, tu regardes tous ceux qui n'ont pas rentré, tu dis moi, je l'avais à l'affaire. Non, on était tous endettés. Notre dette a été éclairée. On a reçu la vie éternelle. Par contre, au ciel, il va y avoir des récompenses différentes pour chacun de nous. Alors, j'espère que ce message-là vous a béni. Et moi, j'aime le Seigneur plus qu'au début de ma vie chrétienne. Et c'est ce qui devrait être vrai pour chacun d'entre vous. Plus vous avancez avec Dieu, plus vous êtes des grands pécheurs. Que vous réalisez que vous avez une indignité. Pourquoi moi? Tu sais, pourquoi moi? Puis, plus que tu avances, plus que tu as été pardonné de beaucoup de choses. Bien, celui à qui on a pardonné beaucoup va aimer beaucoup. Donc, normalement, si ta croix là, dans ta vie, si la croix, tu l'utilises bien, là, tu devrais avoir accumulé contre Dieu plus d'offenses que quand tu étais au début de ta vie chrétienne, non? Puis là, tu t'es tourné et tu as dit, Seigneur, j'ai encore pris une pelure de banane. Je te demande pardon. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû faire ça. Je te demande pardon. Puis Dieu dit, je te pardonne. J'ai été puni pour ça. Sois béni. Père, bénis-moi. Puis là, Dieu se tourne puis te bénit. Ouf. Puis là, tu réalises ton indignité, tu réalises tes comptes étaient vraiment en moins. Là. Puis Dieu se tourne puis dit, je te bénis pareil. Tu sais. Fait que normalement, là, chacun d'entre nous, on devrait être des amoureux encore plus de Jésus-Christ. Puis grandir dans la grâce de Dieu. Et dans la connaissance de Jésus-Christ. Ça devrait être le meilleur vin qui soit gardé pour la fin. Si vous n'êtes pas là, vous avez besoin de redécouvrir cette grâce-là que Dieu dit, hey, sais-tu quoi? Malgré le nombre de tes péchés que tu as accumulés au travers des années, je suis toujours prêt à te pardonner, puis je veux te bénir en plus. Ça devrait chercher dans notre cœur un amour encore plus grand pour le Seigneur. On était un petit peu plus long aujourd'hui, je vous remercie pour votre patience. On va fermer avec la prière. On va faire la prière qu'on offre à chaque rassemblement. C'est que il y a des gens qui nous écoutent sur Internet, encore d'autres sur enregistrement. Et vous êtes ici. J'ai parlé de la croix. Puis à chaque rassemblement, ce que j'offre à la fin, c'est qu'on puisse accepter ce que Jésus-Christ a fait, puis recevoir le cadeau de la vie éternelle. Là, maintenant. Comment on fait ça? Bien, j'en ai parlé durant mon message. Jésus-Christ t'aime tellement qu'il est mort sur la croix pour porter ta punition, pour qu'au jugement dernier, tu ne te retrouves pas au jugement dernier, mais que tu puisses aller au ciel avec Dieu dès le jour de ta mort. La seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter que Jésus t'aime tellement qu'il a fait cela à ta place. Il faut que tu te reconnaisses comme pécheur et que tu reconnaisses que ta punition est tombée sur lui. Qu'il est mort, il est aussi ressuscité pour te préparer une place qu'il va te donner quand tu vas aller au ciel. Si tu veux accepter la vie éternelle, fais cette prière avec nous. On a tendance à la faire aussi tout le monde à voix haute. Ainsi, c'est comme un geste de courtoisie et tu embarques tout simplement avec nous. On ne la fait pas plusieurs fois, cette prière-là, on la fait une seule fois, mais on la fait avec foi. Fait que si tu voudrais accepter la vie éternelle aujourd'hui, ce cadeau-là, prie avec nous. On va la faire à voix haute. Seigneur Jésus, je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai une dette envers toi. Que cette dette a été payée par Jésus. Je crois que tu es mort et ressuscité pour me donner la vie éternelle et me préparer une place. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur, je te prie que s'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois, le Saint-Esprit de Dieu puisse venir remplir le cœur de cette personne afin que cette personne ait la certitude et l'assurance qu'elle n'ira jamais en jugement et qu'elle a accepté le cadeau de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci pour votre patience. Et on continuera à partager là, durant l'heure du repas. Dieu vous bénisse.